Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission consacrée au père Amphiloche Makris, mort en 1970, fondateur de monastère et revivificateur du monachisme à Patmos et dans les îles du Dodécanèse, en mer Égée, dont la sainteté a été reconnue officiellement par le patriarcat œcuménique de Constantinople le 29 août 2018. Parmi les livres écrits sur le père Amphiloche, celui du métropolite Ignace Triondis, qui date de 1994, a été traduit en français par Isabelle Tambrin-Camaroudis et a paru aux éditions des Sirtes en 2019 avec une préface de Jean-Claude Larcher, qui est avec nous pour en parler. Jean-Claude Larcher, le père Amphiloche, nouveau saint de l'Église orthodoxe, est très proche de nous dans le temps. La sainteté est donc toujours vivante et, je dirais, parmi nous.
Oui, bien sûr. Chaque année, chaque église orthodoxe locale canonise un certain nombre de personnes qui sont déclarées saintes, c'est-à-dire qui sont considérées comme ayant accompli dans sa perfection la vie chrétienne. Et donc, le père Amphiloche a été canonisé récemment, mais constamment, il y a une reconnaissance de l'Église par rapport à de nouveaux saints qui sont des gens qui, en général, étaient connus, parfois moins connus, et il y a aussi des gens qui ne sont pas officiellement reconnu par l'Église, mais dont la sainteté néanmoins reste secrète. Donc c'est un processus qui accompagne la vie spirituelle de l'Église en permanence.
Je vous dis ça parce que très souvent, on pense que les saints, c'est quelque chose de très lointain dans le temps, et donc d'inapprochable pour un fidèle d'aujourd'hui. C'est pas que l'Église reste toujours ancrée dans une sainteté qui remonte très loin.
Donc effectivement, on a parfois cette idée, comme pour les pères de l'Église. Il faut savoir aussi que dans l'Église orthodoxe, il y a des pères de l'Église contemporains. Ce ne sont pas seulement des écrivains qui ont vécu dans une époque ancienne, qui sont éloignés de nous et qu'on devrait considérer avec un regard purement historique, mais ce sont vraiment des gens qui ont vécu ou vivent parmi nous. Et il est très important de souligner justement cette communion des saints qui n'est pas une communion avec le passé, mais qui est quelque chose de toujours actuel dans l'Église et qui va se poursuivre aussi dans le futur.
Écoutez, si vous voulez bien, nous allons maintenant en venir au livre. Donc le titre du livre, l'ancien de Patmos, saint Amphiloche Makris, déjà le terme l'ancien, qui est le Gerondas, le Starets, etc. Donc c'est quelqu'un qui de son vivant était connu comme un ancien.
Oui, il était confesseur, père spirituel, supérieur de monastère, et il n'est pas seulement resté dans le monastère qu'il a fondé à Patmos, le monastère de l'Evangelismos, de l'Annonciation, ni dans l'autre monastère dont il a repris la direction, le monastère plus célèbre de Saint-Jean le théologien, mais c'est quelqu'un qui aussi a voyagé, a effectué des missions dans les îles proches du Dodécanèse, par exemple à Rhodes surtout, mais a aussi été confesseur dans la Grèce continentale, à Constantinople même. Il a été appelé plusieurs fois pour confesser au patriarcat, où un certain nombre de fidèles et de clercs sont allés le consulter. Il était connu comme un père spirituel.
Alors prenons un tout petit peu sa vie maintenant pour voir d'où il vient, comment sa vie a évolué, justement pour montrer aussi le passage d'un simple fidèle, si vous voulez, à celui du... C'est pas un statut, celui du Starets, du père spirituel, mais c'est quand même un état qui, on le voit là, peut conduire à la sainteté.
Oui, il a déjà eu une très bonne formation. Bon, il est originaire de Patmos, a passé son enfance et sa jeunesse là-bas, et spirituellement, il a eu une formation très solide, de la part de spirituels qui résidaient à Patmos, en particulier le père Théoctiste et le père Macaire Antoniadis, mais il a aussi eu des relations avec d'autres spirituels très connus, en particulier Saint Nectaire d'Égine ou Saint Philothée Zervakos, qui était à cette époque aussi quelqu'un dont la renommée était grande et dont le rayonnement était grand. Et donc c'est quelqu'un qui a eu, si l'on peut dire, une formation très classique, qui a donc, en tant que supérieur de monastère, entretenu une tradition rigoureuse dans l'ordre des services liturgiques, mais aussi dans la pratique de la prière de Jésus à laquelle il était très attaché, parce que justement il y avait été formé par ces ermites qui vivaient à Patmos et qui ont été ses premiers pères spirituels. Mais en même temps, et ça nous allons sans doute en parler, il a développé à Patmos un monachisme extrêmement ouvert sur l'extérieur, un monachisme missionnaire, un monachisme accueillant, donc qui conjuguait, si vous voulez, des qualités qui ne se trouvent pas toujours ensemble dans les monastères, c'est-à-dire des qualités à la fois d'une vie spirituelle stricte, conforme aux canons, aux traditions de l'Église, mais en même temps une ouverture aux fidèles, une ouverture à des milieux qui n'étaient pas encore catéchisés. Il faut rappeler que les îles du Dodécanèse, surtout à cette époque, étaient sous occupation catholique, mais après avoir été près de 6 siècles sous occupation ottomane, donc l'orthodoxie était en quelque sorte de nouveau en développement, où il y a eu une renaissance à laquelle lui-même a beaucoup contribué par cette ouverture au monde, par une activité missionnaire pour laquelle il a lui-même agi, mais pour laquelle aussi il a su déléguer un certain nombre de fidèles qui étaient souvent d'ailleurs des laïcs et aussi souvent des femmes, ce qui était assez peu commun à cette époque.
D'ailleurs, le monastère de l'Annonciation est un monastère de femmes. Hein.
Alors, c'est un monastère de femmes qui a commencé à exister, comme c'est souvent le cas dans l'orthodoxie, par une petite communauté de jeunes filles laïques qui ont des aspirations pour la vie spirituelle, puis des aspirations pour la vie monastique, et qui donnent lieu ensuite, parce que justement il y a une réalité presque constituée, il y a une demande à la constitution d'un monastère. Hein. C'est pas d'abord un monastère qui existe, mais c'est souvent une demande qui existe à partir d'un groupe de fidèles, hommes ou femmes, qui vont être suffisamment nombreux et suffisamment motivés pour qu'une structure monastique se constitue.
Donc un rayonnement sur place, patmiote, je dirais. Il faut d'ailleurs aller à Patmos pour voir à quel point cette île est sous la domination, je dirais d'abord, du grand monastère de Saint-Jean le théologien, puisque c'est là où, selon la tradition, Saint-Jean aurait écrit, ou plutôt dicté, l'Apocalypse. Et donc toute l'île est consacrée, justement, à cet événement et à ce monastère. Mais aller aussi sur les pas du père Amphiloque, là, pour aller près de la mer, au monastère de l'Annonciation, et voir aussi ces lieux. Donc, un rayonnement local, puis un rayonnement, comme vous avez dit, dans les autres îles du Dodécanèse, les îles les plus proches, et puis un rayonnement qui va en Grèce, mais qui arrive aussi en Europe, en France.
Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu des relations avec un certain nombre de Français orthodoxes. En particulier, Jacques Touraille, qui est bien connu comme le traducteur en français de la Philokalie, des 11 volumes de la première édition de la Philokalie, a été plusieurs années à Patmos. Il avait à cette époque une certaine vocation pour la vie monastique, en tout cas s'interroger sur son avenir. Et là, il a été en contact avec le père Théoctiste, qui a été un père spirituel du père Amphiloque, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout avec le père Amphiloque lui-même. Le père Amphiloque a eu aussi des relations avec la mère supérieure à l'époque du monastère de Bussy-en-Othe, qui est allée le visiter plusieurs fois accompagnée de quelques sœurs. Il a eu des relations aussi avec un représentant assez connu de l'émigration russe, un écrivain, un intellectuel, Léon Zander, et sa femme Valentine, qui se sont attachés à lui et qui se sont même installés à Patmos, où ils ont construit une petite chapelle dédiée à Saint Séraphin de Sarov et dont les icônes ont été peintes par Léonie Douspensky. Il a eu aussi des relations par disciples interposés avec l'Institut Saint-Serge, et notamment l'un de ses principaux disciples, le père Elias Kalantzis, qui est toujours en vie et qui est d'ailleurs l'aumônier du monastère de l'Evangelismos, a été plusieurs années étudiant à l'Institut Saint-Serge, et on peut lire dans ce livre des extraits de sa correspondance avec lui, et on voit combien le père Amphiloque était attaché à ce que les jeunes gens fassent des études. Il avait ceci de particulier aussi, de vouloir que tous les gens qui allaient devenir moines, tous les jeunes gens qui se destinaient aussi à un ministère presbytéral, aient une bonne formation. C'était pour lui vraiment important. Souvent, les milieux monastiques sont accusés d'obscurantisme ou sont réputés en tout cas privilégier la spiritualité pure au détriment de la théologie. Lui avait conscience que la formation théologique était particulièrement importante et notamment dans le cadre de l'activité missionnaire à laquelle il accordait beaucoup d'importance. Il voulait que les gens qui aillent dans le monde pour parler de l'orthodoxie aient de solides fondements pour le faire.
C'est très intéressant aussi de voir ce rapprochement entre les deux traditions grecques et russes par la même personne et par des disciples qui habitent en Europe occidentale. Alors, le père Amphiloque est mort donc le 16 avril 1970, donc sa fête est fêtée dorénavant le 16 avril, le jour de sa dormition donc. L'acte officiel de reconnaissance de sa sainteté date du 29 août 2018 et... en septembre 2018, a eu lieu, dans le monastère qu'il a lui-même fondé, celui de l'Annonciation, une liturgie solennelle au cours de laquelle, pour la première fois, on a chanté l'être père du saint, etc. C'est une liturgie donc qui marque de manière eucharistique l'entrée de ce nouveau saint dans le calendrier liturgique de l'Église orthodoxe. Et on entend un petit extrait de cette solennité par les moniales du monastère. Ευλογή ψυχή μου το Κύριον, ευλογητός η Κύριε, ευλογή ψυχή μου το Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλογή ψυχή μου το Κύριον και μη επιλαθώνου πως έστασαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέη και η θυρμή. Τον εμή πρώτα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιον ελεημός είναι σου Κύριος, και κρίμα πόση της αδικουμένη. Εγνώρισε τας αγούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτήμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, που Χριστέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Les moniales du monastère de l'Annonciation à Patmos chantent le psaume 102 au début de la liturgie eucharistique. Le jour, c'était le 19 septembre 2018, jour de la première liturgie solennelle qui marqua l'entrée dans le calendrier orthodoxe de Saint Amphiloque. Alors nous revenons à notre entretien avec Jean-Claude Lercher sur le livre d'Ignace Triandis, l'ancien de Patmos, Saint Amphiloque Macris, c'est la vie de ce saint. Vous avez parlé tout à l'heure de sa volonté, de son idée missionnaire de l'Église. Alors je prends un petit extrait de ses lettres où il parle lui-même de sa conception de la mission de l'Église dans le monde. Alors nous, c'est-à-dire les chrétiens, avons été appelés à donner aux nourrissons une crèche, aux jeunes enfants une école maternelle, à l'enfant sans instruction une école, à l'orphelin une protection, à l'enfant malade un hôpital, aux jeunes une éducation dans un environnement chrétien. Nous y sommes appelés dans un élan d'amour et de miséricorde, digne de l'âme du christianisme. Alors, c'est l'action sociale, là. Il parle de ça.
Oui, c'est bien que on parle de ça, parce que c'est vrai que dans la diaspora, c'est-à-dire parmi les orthodoxes qui ont dû s'exiler à partir de pays orthodoxes dans les pays occidentaux, le caractère missionnaire de l'Église orthodoxe ou avant cela son engagement dans des œuvres sociales est plutôt déficitaire. Mais c'est dû uniquement au fait que justement on se trouve dans la plupart des cas, dans une terre étrangère où il était difficile d'établir des institutions adéquates, mais dans les pays orthodoxes eux-mêmes, les institutions qu'on pourrait appeler, pour simplifier, de bienfaisance, mais en tout cas qui sont destinées à apporter au peuple de l'instruction, des soins de santé, etc., ont une importance tout à fait vitale pour l'Église. Et le père Amphiloque lui-même, justement, a fait passer son activité missionnaire dont nous avons parlé tout à l'heure par l'intermédiaire d'institutions charitables. En particulier, il a créé des orphelinats. Il faut rappeler que c'était une période troublée, il y avait eu récemment des guerres, donc il y avait beaucoup d'orphelins. Il a aussi créé des écoles, il a créé des institutions de soins, et il a eu recours pour les diriger non seulement à des laïcs, mais à des femmes. Ce qui est, je voudrais insister beaucoup là-dessus, parce que on dit souvent que dans le christianisme et dans l'Église orthodoxe, la place des femmes est secondaire. En réalité, Père Amphiloque a beaucoup valorisé le rôle des femmes. Il s'est très tôt entouré de femmes qui avaient des qualités spéciales pour justement prendre des initiatives dans le sens que j'ai dit, et pour développer des œuvres diverses d'ordre éducatif, d'ordre sanitaire, et en particulier, on parle beaucoup dans ce livre d'un petit groupe de femmes que très tôt il a délégué pour diriger des écoles, des orphelinats, des hôpitaux même, et donc c'est quelque chose ça qui a eu un impact très grand sur la société, en tout cas qui l'environnait. Et ce rôle missionnaire, il est important d'en parler aussi parce que c'est vrai aussi qu'il est souvent devenu secondaire dans la réalité de l'orthodoxie que nous connaissons en Occident. La mission telle que l'Église orthodoxe la conçoit n'est évidemment pas quelque chose qui relève d'une volonté de convertir par des pressions quelconques, mais tout simplement de faire connaître l'orthodoxie telle qu'elle est, alors qu'elle est souvent mal connue dans le milieu où nous vivons et dans le milieu où vivait Amphiloque au départ, puisque, comme je l'ai dit, c'était un milieu qui avait été soumis pendant des années à occupation ottomane, qui était ensuite soumis militairement à une occupation italienne et où des missionnaires catholiques, eux, cherchaient vraiment à convertir des orthodoxes au catholicisme, et il a eu ce souci vraiment de présenter l'orthodoxie sous son meilleur jour, c'est-à-dire sous son aspect traditionnel, mais en même temps vivant, qui permet aux chrétiens d'envisager une vie qui a un sens et qui a aussi se développe et permet un développement de la personne, donc quelque chose de fructueux et pas seulement une pratique formelle, une pratique ritualiste, mais une véritable vie formée à la spiritualité des pères, ancrée dans la prière, ancrée dans les services liturgiques, mais ancrée aussi dans l'aide concrète au prochain et dans les relations positives avec la société environnante.
Merci beaucoup donc pour la fin de cette émission. Nous allons parler, si vous voulez bien, bon, de ces starets, de cette tradition, mais aussi du fait que la sainteté de certains d'entre eux est désormais reconnue officiellement, où elle va l'être très bientôt. Où il y a eu récemment, pour le monde grec déjà, ou le monde atonite, le père Paisios, le père Porphyrios, et il y a eu le père Amphiloque, il y a eu le père Iakovos aussi. Et puis maintenant, récemment, le patriarche de Constantinople, qui d'ailleurs lui-même est un enfant spirituel du père Amphiloque. Hein.
Oui, ils ont été en relation épistolaire seulement, ils ne se sont jamais rencontrés, mais c'est vrai que dans la formation du jeune patriarche actuel, le père Amphiloque a joué un rôle tout à fait important.
Et donc maintenant nous allons, si vous voulez bien, présenter cette nouvelle liste, je dirais, de personnages dont la sainteté est déjà reconnue par la conscience populaire de l'Église, mais dont l'Église officielle maintenant pense les inscrire dans le calendrier liturgique comme des saints.
Oui, alors actuellement, d'après l'annonce qui a été faite récemment par le patriarcat de Constantinople, vont être prochainement canonisés 5 grands spirituels. Bon, l'un, c'est Daniel de Katunakia, dont j'ai présenté la vie dans un volume de la collection Grands Spirituels Orthodoxes du XXe siècle que je dirige, volume paru aux éditions L'Âge d'Homme sous le titre Figure atonite du début du XXe siècle. Il y aura aussi le père Jérôme de Simonos Petra, qui a vécu entre 1871 et 1957, qui est moins connu, mais qui était un igoumène du monastère. Le père Joseph Lesicaste, qui lui est très connu et où dans la collection Grand Spirituel Orthodoxe, j'ai publié aussi deux livres le concernant, à savoir sa vie et sa doctrine spirituelle dans le livre du père Joseph de Vatopédie, l'ancien Joseph Lesicaste, et aussi ses lettres spirituelles, un assez gros volume de sa correspondance où apparaît vraiment sa sainteté, son caractère spirituel tout à fait extraordinaire qui en faisait à son époque l'analogue du Staretz Silouane. Puis il y a comme quatrième personne, le père Ephrem de Katunakia, que j'ai eu le privilège de rencontrer et de connaître personnellement, qui est mort en 1988, et auquel aussi dans la collection Grand Spirituel orthodoxe du XXe siècle, deux ouvrages ont été consacrés, dont l'un paru récemment, en 2018, et puis enfin, le père Sophronie Sakharov, qui lui est bien connu, puisqu'il a vécu assez longtemps au Mont Athos, mais aussi un certain nombre d'années en France, et depuis le milieu des années 50 en Angleterre, où il a eu de nombreux visiteurs, il a écrit beaucoup de livres qui ont été publiés en français, on a écrit beaucoup d'articles sur lui, donc c'est une personnalité vraiment rayonnante et déjà très connue.
Tout à fait, qui était lui-même disciple de Saint-Silouane de Latonite.
Voilà, et
il a fait connaître Saint-Silouane, tout à fait, et auquel nous avons récemment consacré des émissions, surtout sur les ouvrages qu'il nous a laissés. Donc, pour terminer avec ce que nous avons dit au début, nous voyons ici une sainteté, je dirais, on ne peut pas parler d'activité, mais en présence permanente dans l'Église.
Oui, parce que tout simplement, la sainteté, c'est la vie chrétienne dans sa perfection, et heureusement, il y a des gens qui arrivent à réaliser cet idéal, et puis qui, justement, servent ensuite d'exemple pour les autres. La canonisation est une reconnaissance officielle par l'Église, mais en même temps, il nous laisse souvent des œuvres, des témoignages, des enseignements dont les chrétiens peuvent profiter pour leur propre vie spirituelle.
Merci beaucoup Jean-Claude Larcher. Donc je rappelle le titre de cet ouvrage du métropolite Ignace Triandis, l'ancien de Patmos, saint Amphiloque Macris, paru aux éditions de Sirte en 2019. Puis je rappelle que vous êtes directeur de la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle et dans la collection de l'Âge d'Homme.
Et aux éditions de Sirte maintenant.
Et maintenant passer aux éditions de Sirte. Merci beaucoup. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Philippe Mercher. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.